Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro 5 de la saison 3 de Loz Actuali. On se retrouve avec toute l'équipe habituelle. Bonjour Léa.
Salut.
Bonjour Bastien.
Bonjour.
Et bonjour Eric.
Bonjour les gens.
On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais on va parler de bière, hein, voilà, avec la brasserie La Naine, avec Gwendoline Boutet et Florian Gauthier. Je vais y arriver. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Merci de nous recevoir.
Voilà. Il y aura dans cette émission la chronique d'Eric, qui est une chronique de saison.
C'est ça. Je vais vous parler de ma liste au Père Noël.
On poursuivra avec une autre chronique, celle de Léa, chronique de saison, elle aussi.
Oui, les gilets jaunes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Ok. On poursuivra avec le hashtag de Bastien, et ça sera...
Stop violence.
Voilà. Et enfin, la revue de presse, il y aura des révélations scientifiques, à nouveau des gilets jaunes, des sapins de Noël... et la couleur de 2019. Donc restez attentifs, vous verrez ça tout à l'heure. C'est juste après ça. Première partie de notre émission avec nos invités Gwendoline Boutet et Florian Gauthier. Vous représentez donc la brasserie La Naine, installée à Saint-Chély-d'Apcher depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet, comment il est né, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette brasserie?
Alors en fait, au départ, il faut savoir qu'on n'aimait pas trop la bière, et puis, surtout moi, je n'aimais pas trop l'amertume de la bière. Et au final, en découvrant les brasseries artisanales un peu partout en France, on a commencé à en visiter, et on a découvert un peu le processus de fabrication, et du coup, ça nous a donné envie de le faire à la maison. Donc on a acheté tout le matériel pour le faire dans notre cuisine, et c'est vraiment devenu une passion en fait, et puis... C'est ce qu'on voulait après, du coup, le faire partager à tout le monde. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure pour ouvrir notre brasserie, en fait.
Ça a commencé avec le kit qu'on peut trouver chez un certain nombre de... Enfin, voilà, on trouve chez certains vendeurs, qu'on peut d'ailleurs peut-être offrir à Noël, où on fait sa bière chez soi. C'est ça qui vous a donné le goût
Oui, voilà, tout à fait. On a commencé par un petit kit en 5 litres, et puis on est vite passé par 20 litres. Et puis après, maintenant, on tente l'aventure avec 1000 litres en professionnel.
Et alors, entre-temps, vous vous êtes formé, comment ça se passe, comment on arrive à créer son entreprise pour faire ça?
En fait, il ne faut pas forcément de diplôme spécial pour pouvoir ouvrir une brasserie, donc c'est vrai que tout le monde peut le faire. Mais nous, comme on avait un parcours scientifique, en fait, c'est beaucoup de science aussi. Après, on s'est formé auprès de brasseurs aussi en faisant des stages et aussi en échangeant beaucoup avec eux aussi.
Et alors pourquoi la brasserie de La Naine?
En fait, la brasserie de La Naine, c'est un petit peu tout ce qui va être notre univers qu'on apprécie, l'univers médiéval. Puis dans les croyances nordiques aussi, le nain est toujours associé à la convivialité, aux festivités. Et on le voit souvent représenté avec sa chope de bière à la main. Et après, on a choisi aussi le terme naine parce que je suis une des gérantes et je suis une femme. Et donc, c'était pour mettre en valeur qu'une femme travaille dans les brasseries parce qu'il y en a quelques-unes, mais il y a quand même plus d'hommes dans ce domaine.
Alors, justement, toute votre gamme de produits est autour de l'univers de ces cultures que vous évoquiez à l'instant, au niveau des visuels, au niveau de tout ça. Ça fait partie vraiment de l'ambiance que vous avez voulu donner à vos produits.
Oui, voilà. En fait, on a toujours notre petite naine qui est représentée avec le fourquet, qui est l'outil traditionnel pour brasser les céréales ou dans la cuve d'ébullition. Et donc, en fait, on travaille avec un jeune ami de la famille d'Occitanie, en fait, qui va nous faire les dessins et qui nous personnalise les dessins en fonction des bières ou notre logo principal, en fait. Donc, il va aller dans une école de dessin, donc on l'aide pour rentrer et nous, il nous aide dans le début de notre carrière.
Et quelle est un peu votre gamme de produits aujourd'hui ? Alors, on reviendra peut-être sur les produits d'hiver, la bière d'hiver tout à l'heure, parce que ce sera la partie un peu de ce qui fait l'actualité aussi. Mais dites-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver chez vous.
Alors, pour l'instant, on a commencé par une gamme principale de 3 bières. Donc, à noter qu'on travaille avec des matières premières qui vont être certifiées agriculture biologique, donc qui ont le label. Le malt d'orge, malt de blé, malt d'avoine, le houblon, les épices et le sucre qu'on peut rajouter pour la refermentation bouteille vont être labellisés bio. Et du coup, on propose une gamme toute l'année de 3 bières qui va être une bière blanche, la blanche naine, une bière blonde, la reine des naines, et une ambrée, la naine rebelle. Voilà. Et donc chaque saison, on aura des bières spéciales, donc celle d'hiver par exemple pour retrouver. Au printemps, on devrait en faire une à la gentiane avec des racines locales. Puis on devrait développer d'ici l'été 2019 une bière sans alcool, comme le panaché en dessous de 1,2% de volume d'alcool.
C'est pas une hérésie un petit peu de faire de la bière sans alcool pour des brasseurs?
Ben non, c'est en fait de la bière sans alcool, il y a toujours un peu d'alcool dedans, puisqu'il faut une refermentation, enfin il faut forcément de la fermentation alcoolique dedans. Donc c'est aussi un marché qui est en place, beaucoup veulent boire de la bière, mais peuvent pas forcément, ou pour des convictions, veulent pas boire trop d'alcool. Donc c'est quand même quelque chose qui est d'actualité et qu'on voudrait proposer aux gens qui en veulent du coup.
On est sur combien de degrés à peu près pour vos bières ?
Pour nos bières, on va être, pour la blanche, à partir de 5,5, et puis jusqu'à l'ambrée, 5,8. Et après, selon les bières spéciales, la triple pour Noël va être à 8,5 degrés.
Alors comment, moi je sais pas du tout comment on fait la bière. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le processus de fabrication ?
Oui, c'est assez simple le processus de fabrication. En fait, ça va être un mélange de sciences, comme je vous expliquais, et de cuisine aussi. Donc il va y avoir différentes étapes. Il faut à peu près environ un mois pour faire une bière en fait.
Donc là, toutes les bières pour Noël, elles sont déjà faites.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors racontez-nous un petit peu.
Donc en fait, ça consiste à faire différentes étapes. On va du coup utiliser des céréales qui vont être maltées pour libérer une enzyme qui va nous permettre de transformer l'amidon présent dans les céréales en sucre. Et c'est ces sucres ensuite qui seront métabolisés par les levures pour faire l'alcool. Et donc pour faire ça, il va falloir passer par faire tremper les céréales dans une eau à une température environ dans 65 degrés pour extraire justement ces sucres. Ça va passer par une période de recirculation et de rinçage des céréales. Donc après, à noter que les céréales, on ne les jette pas, on les donne à des agriculteurs pour leur alimentation bovine, pour l'alimentation animale, pardon, un peu tous les animaux pour ne pas jeter les céréales. Donc ensuite, on va faire une partie d'ébullition, où ça va consister à porter à 100 degrés du coup, le mélange pour le stériliser un petit peu, et aussi là où on va mettre le houblon, donc pour donner l'amertume et puis l'arôme aussi. Et ensuite, on va le faire refroidir assez rapidement pour pas qu'il y ait de contamination. Et ensuite, pour les passer dans les cuves de fermentation, pour mettre les levures et permettre la fermentation pendant une à deux semaines. Et ensuite, une fois que la fermentation est terminée, on va la mettre en garde, donc sous une température de 10 degrés à peu près, pour que les levures sédimentent et les protéines aussi, ce qui va nous permettre aussi de clarifier la bière. Et une fois ça, comme on travaille avec des cuves qui ne sont pas sous pression, il va falloir resucrer en fait notre bière pour permettre aux levures qui vont être présentes dans les bouteilles de faire les bulles en fait naturellement. Donc on ne remet pas de CO2 dans nos bières pour faire les bulles, c'est les levures qui le font naturellement. C'est pour ça qu'on a un petit fond, un lit de levure dans nos bouteilles en fait. Et ensuite, il va falloir l'embouteiller, c'est sur toute une journée, et remettre en refermentation en bouteille, donc dans une chambre qu'on dit chaude, puisqu'elle va rester à 20 degrés à l'obscurité, donc pour les levures travail. Donc au bout de ce mois, on va pouvoir mettre les bouteilles en vente.
Et vous arrivez à vous fournir où en produits, en matières premières ?
Alors les matières premières, on essaie au maximum de les prendre françaises, donc les céréales viennent du nord de la France. Comme il faut qu'elles soient maltées, on ne peut pas les utiliser brutes. Donc c'est pour ça qu'il faut que des malteries les maltent, en fait, comme il faut des grands espaces pour les humidifier, les sécher rapidement. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se fournir trop localement ou alors faire du maltage à façon.
C'est quoi comme céréales?
Alors les céréales qu'on utilise, ça va être de l'orge. On peut aussi rajouter selon les recettes du malt de blé ou du malt d'avoine. Et ensuite le houblon, comme c'est une plante qui se ramasse une fois par an, et comme on est en bio, c'est assez compliqué, c'est très sensible aux conditions météorologiques. Du coup, pour l'instant, on a été obligé de se fournir en Grande-Bretagne.
Et du coup, toutes vos céréales, du coup, doivent être bio?
Oui, nous, du coup, on travaille que des céréales bio, enfin, qui sont certifiées, sinon on ne pourrait pas mettre le label sur nos produits.
D'accord. Et c'est juste ça, les céréales, qui garantissent votre bière bio ou il y a d'autres processus?
Non, du coup, c'est ils surveillent aussi notre organisme certificateur la qualité de l'eau, voir si elle est conforme aux exigences pour le label bio. Après, on travaille aussi avec le houblon bleu, du coup, et les épices et le sucre pour la refermentation en bouteille.
Et justement, l'eau, c'était facile de trouver de l'eau. C'est l'eau du robinet, comment ça fonctionne?
Oui, nous, on n'utilise pas d'eau de source, puisqu'on n'en avait pas dans le local où on est situé, en fait. Mais par contre, oui, c'est l'eau du réseau. On a de la chance, quand même, d'avoir en Lozère de l'eau qui est assez préservée. Ça dépend des endroits aussi, après, mais ici, on avait de la chance. C'est pas comme si on se retrouvait dans un grand bassin de ville où c'est plus compliqué d'avoir une eau assez conforme.
Et justement, pourquoi s'installer en Lozère?
Alors en fait, c'était une réelle volonté de notre part, parce que moi, pour ma part, j'ai grandi en Lozère depuis que j'ai l'âge de 6 ans, en fait. Et j'ai dû partir pour faire mes études, Clermont, enfin dans des grandes villes. J'avais vraiment envie de revenir, et Florian, mon compagnon et associé, lui est arrivé plutôt vers le lycée, en fonction des décisions de sa famille. Et ses parents sont pas restés en Lozère pour sa part. Et lui, il est tombé aussi amoureux de la Lozère, donc on avait une réelle volonté de revenir en Lozère. Donc à la base, on voulait revenir à la retraite. Quand on a eu ce projet, du coup, on ne s'est pas posé la question en 10 ans et on a voulu choisir la Lozère.
Oui, parce que c'est vrai qu'on pense Lozère, on ne pense pas forcément bière.
Oui, c'est vrai que la Lozère n'est pas forcément associée à la bière. Après, on n'était pas la première brasserie en Lozère, on est quand même la 8e. On est la seule qui est labellisée bio après et la seule qui est plutôt nord-Lozère. En dessous de Chanac et Mende, on va plutôt retrouver les autres brasseries. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait s'installer ici, et aussi pour la qualité de vie qu'on peut retrouver, et entre autres la qualité de l'eau aussi.
Et la démarche bio, c'est quoi comme démarche justement?
Par rapport à nos convictions, vous voulez dire? Oui. C'est parce que ça, pour ma part, moi je travaillais dans en fait, la qualité de l'eau avant en fait, donc un petit peu les problématiques liées à l'environnement. Donc ça nous tenait à cœur aussi de mettre le bio en avant pour proposer aussi des produits bio du coup.
Ça rajoute des difficultés au brassage?
Mais en fait, c'est pour ça qu'on a choisi de faire une production 100% bio, en fait. Parce que si on travaille avec d'autres produits qui ne sont pas bio, il faut qu'on utilise différentes machines. En fait, on ne peut pas se servir des mêmes cuves, par exemple, selon les étapes. Ou l'embouteillage, par exemple, ça donne un peu plus de contraintes. Ce qui va donner des contraintes, peut-être, c'est de tout ce qu'il faut suivre pour notre organisme certificateur. Ils font des contrôles un petit peu réguliers, des contrôles inopinés qui peuvent tomber à des moments pas forcément adéquats pour nous. Et sinon, non, ça part se fournir et pour chercher les matières premières bio. Sinon, il n'y a pas de contraintes supplémentaires.
Vous voulez rester sur le marché local ou vous étendre à un moment ou à un autre?
En fait, les brasseries artisanales, du coup, c'est plutôt local, du coup on va pas trop s'étaler non plus trop, on est un petit peu rentré aussi, enfin on s'est développé dans la Lozère pour différents revendeurs, un petit peu le Cantal aussi, mais on va pas partir non plus à 36 000 km, c'est pas vraiment la démarche non plus avec le bio de partir trop loin ou de choses comme ça.
Donc aujourd'hui on retrouve vos produits un peu partout en Lozère ou
oui, on
pour
peut
nos auditeurs, où peuvent-ils acheter vos produits?
Alors, vous pouvez déjà venir les acheter dans notre boutique à Saint-Chély-d'Apcher, parce qu'en plus, on vous propose de visiter la brasserie, vous expliquer les différentes étapes, comment on a le matériel juste à disposition à côté de la boutique. Donc, c'est sur demande, les visites, c'est quand vous voulez.
Et ça se passe où, à Saint-Chély?
On est situé à la zone artisanale, vers le rond-point qui va en direction du Malzieu, à côté des grandes scieries, en fait, là-bas, et vers l'Intermarché.
D'accord. Et donc, après, vous êtes présent dans d'autres...
Voilà. Après,
on
est présent sur les revendeurs déjà de Saint-Chély-d'Apcher, puisque nous, on est à la zone artisanale, donc on nous retrouve dans le centre-ville avec différents revendeurs les maisons parents de boucherie, du coup, qui sont de boucherie, la maison Prunière Rua. On est aussi chez imprimeur Le Fruitier, qui vend nos produits. On est aussi à la Vie Claire, puisqu'on est certifié bio, donc on peut travailler avec eux. Et on est aussi dans d'autres restaurants, comme la Ch'tite Cocotte, Pizza Angel ou Le Petit Croc. Et donc, on peut retrouver nos produits là-bas. Ils ont bien joué le jeu, en fait, pour proposer nos produits et nous aider, en fait, à les commercialiser sur Saint-Chély. Mais après, on peut aussi nous retrouver à Mende, Marvejols, dans les Cévennes, à Vébron, dans différents endroits, et à Saint-Flour maintenant aussi.
Pour nos auditeurs mandois, on retrouve vos produits à quel endroit à Mende ?
Alors, pour les auditeurs mandois, depuis récemment, on peut nous retrouver dans le réseau de La Ruche qui dit oui aussi, depuis ce mercredi, la première fois. D'ailleurs, oui, on proposera une petite dégustation pour faire découvrir nos produits. Et ensuite, on peut retrouver nos produits à La Servine, à Saveur Gourmande et à la Biocoop. J'oublie personne.
Voilà, oui, c'est toujours compliqué ce genre de questions où effectivement, on pose, on met un peu tout le monde. Il faut pas en oublier, c'est important parce que c'est des partenaires qui, j'imagine, sont importants pour le développement de votre activité et voilà, qui sont. Enfin voilà, et cette fonction commerciale, vous l'avez intégrée. Enfin, c'est vous directement qui la conduisez en tant que gérant de l'entreprise ou. Vous avez aussi d'autres personnes dans l'équipe plutôt sur ces fonctions-là ou plutôt sur la production. Vous êtes que tous les deux ou vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous ?
Non, du coup, on est vraiment que tous les deux à 100% sur toutes les thématiques, du coup, que ce soit la production,
la
vente, la livraison, la gestion des fournisseurs, des matières premières. Donc, c'est vraiment nous qui nous occupons de tout de A à Z, du coup. Ouais.
Et alors, depuis le début de l'aventure, le 15 septembre, c'est ça, vous m'avez dit tout à l'heure pour la rentrée dans la production, on va dire. Vous avez fait combien, je sais pas combien de bouteilles, combien de litres de bière sont sortis de vos...
Alors, depuis qu'on a ouvert le 15 septembre, on a produit environ 8000 litres et on en a vendu à peu près entre 3000 et 4000 litres, du coup, pour l'instant, en tout cas.
Donc, il y a le rush de Noël qui va peut-être permettre de faire quelques cadeaux côté bière. Bon, je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de l'interview. On parlera justement de cette bière d'hiver qui fait le lien avec cette période de Noël. Et puis on parlera aussi de l'animation entre les différents brasseurs de Lozère coordonnés par la chambre de métier. Ça sera sur le marché de Noël à Mende. Donc on en parlera dans quelques instants. Mais tout de suite, ça sera la chronique d'Éric. Éric, tu écris un grand monsieur barbu, non, même ouais. Pas
en fait, excusez-moi, j'ai pas le moral, on s'est presque bientôt au jour de fête. J'ai une nouvelle terrible. Vous êtes assis ? Le Père Noël n'existe pas.
Oh, mais on peut pas dire ça !
Tenez un mouchoir. Ouais. C'est mon fils de 6 ans qui m'a mis le doute hier soir. Son copain qui m'y a surpris sa maman en train d'emballer elle-même les cadeaux sans l'intervention d'un seul lutin. Je sais. J'étais comme vous, j'ai d'abord refusé d'y croire. Et puis j'ai fait un calcul très précis. Il y a environ 7,5 milliards d'humains sur Terre. Bon, après, il faut enlever ceux qui n'ont pas été gentils, comme les petits lycéens de Mantes-la-Jolie. Alors, même si le Père Noël réussissait à livrer un cadeau toutes les 5 microsecondes, ce qui fait déjà un bon rythme, même avec des rennes qui marchent au Red Bull, et que je fais une règle de 3. Donc, 5 fois 7,499, à cause de Mantes-la-Jolie, là. Alors, fois la distance moyenne entre deux cheminées, soit 6,42 m en ville et 72,24 m à la campagne, fois la vitesse du vent, 35 km/h en moyenne dans l'hémisphère nord et 42 km/h dans le sud, et sans compter de ne pas être bloqué à un rond-point par des gilets jaunes. Oui, je ne sais, ça ne ressemble pas à une règle de 3, mais ça n'existe pas les règles de 5 en maths. Bon, en fait, c'est impossible. Bon, en même temps, quand on y réfléchit, un mec à barbe assez gavé de thunes pour arroser presque la terre entière de cadeaux, c'est pas un Père Noël. C'est Richard Branson, et sa barbe, lui, elle est toute petite. Non, mais le choc, quoi ! C'est comme si on m'annonçait la disparition de milliers d'espèces d'animaux sauvages. Taisez-vous, espèce de monstre ! Bon, et le pire, c'est que je venais de finir ma liste de cadeaux. Alors, peut-être que si je la lis à l'antenne, il y aura des auditeurs pour m'en envoyer. Donc, chut. Cher Papa Noël, j'espère que tu vas bien et que les lutins ne travaillent pas trop dur. Sont-ils aux 35 heures ? En vrai, je m'en fous un peu qu'ils soient aux 35 heures. Tant qu'ils raboulent les cadeaux, tu peux bien les exploiter. En plus, lutin, si on y réfléchit bien, c'est un peu ingrat comme condition. En France, on les appelle les nains qui brassent de la bière. On l'a appris tout à l'heure. Bon. J'ai été très sage cette année, Père Noël. Je me suis pas moqué de mes collègues de la radio. Même si quand je vois les lunettes que porte Léa, honnêtement, c'est difficile de se retenir. Sans parler de l'ambiance olfactive dans le studio. Mais bon, j'ai su être compréhensif. Pour Noël, j'aimerais que tu m'apportes 5 ans en moins. Car ça fait 10 ans que je te le demande dans ma liste, et que j'ai l'impression que tu comprends 5 ans en plus chaque année. Donc c'est moins, Père Noël. Ce que j'attends de toi, c'est un rajeunissement magique. C'est pas compliqué quand même. D'ailleurs, tu verras ce cadeau aussi dans la liste de ma chérie, de ma mère et de Guillaume. Donc tu feras d'une pierre 4 coups. Alors, j'aimerais une arête de poisson qui puisse se coincer dans la gorge de Trump. Tu sais, le président des États-Unis. Mais si, celui qui adore serrer très fort les mains des autres présidents des plus petits pays que le sien. Celui qui ne croit pas au réchauffement climatique, tout ça. Et qu'il meurt. Bon, je veux le dernier album posthume de Johnny Hallyday, parce que je hais mes voisins et que j'ai déjà tout essayé pour les faire partir. Alors, je voudrais aussi une poupée vaudou anti-stress Éric Zemmour, pour défouler les nerfs. Parce que chroniqueur radio, c'est très stressant. Et s'il y a plus ce modèle en stock, tu peux m'envoyer celle de Laurent Wauquiez en gilet jaune.
Non, il n'en a jamais porté.
Non, je sais. Pour ça, il y aura peut-être rupture de stock aussi. Tous les livres de Marc Lévy. Mais non, je déconne, j'ai pas encore 40 ans. Et j'aime encore un peu la vie, surtout. Et enfin, la paix sur la terre. Et la protection de la nature. Ou la collection des bières de la naine. C'est au choix, disons, le plus facile pour toi. Et surtout, n'oublie pas les Mentos, en format familial, et l'encens qui sent bon. Parce que c'est urgent. On passe dans le studio le lendemain de l'instant sport, donc tu comprends. Donc voilà, Léa se fera un plaisir d'attendre toutes vos positions d'envoi au standard. Joyeux Noël.
Et de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas dans le studio, on est au Transfo, puisqu'on enregistre cette émission, et que justement, nos collègues de l'instant sport sont en train de pourrir l'ambiance olfactive du studio.
Il ne faut plus lui laisser le micro à lui, en fait.
Merci Eric pour cette liste au Père Noël. On va faire notre première coupure musicale dans cette émission et c'est Florian Gauthier qui a fait le premier choix. Alors dites-nous qu'est-ce que vous nous proposez et pourquoi.
Ce sera Fear of the Dark de Iron Maiden parce que voilà, c'est un groupe pour moi qui est intemporel et pour les avoir vus en juin dernier, c'est quelque chose que je voulais partager.
Allez, c'est parti, on écoute.
Next thing fall when you're searching for the light. dark road, I am the man who walks alone.
Deuxième partie de notre émission, on retrouve Gwendoline Boutet et Florian Gauthier de la brasserie La Naine de Saint-Chély-d'Apcher. Alors, c'est plutôt la partie qui parle un peu de l'actualité de la période. Donc, vous nous présentez peut-être votre bière d'hiver, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une gamme de base et puis des bières un peu événementielles. Donc, bière d'hiver, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi bière de Noël ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus large ?
Alors, c'est pas vraiment la bière de Noël classique, parce que normalement, la bière de Noël, c'est celle où, à la fin de l'année, le brasseur récupère tout son stock et puis, avec des épices, fait une bière de Noël comme ça. C'est pour ça qu'elles sont souvent épicées. Nous, on a choisi de faire une bière un peu plus forte en alcool pour l'hiver. Donc, j'aime bien me dire qu'on conseille la boire installée confortablement dans son canapé, au coin du feu, en attendant d'ouvrir les cadeaux de Noël. Et donc, c'est une bière d'hiver, donc, qui est à 8,5% de volume d'alcool. Et en fait, il faut du coup, pour avoir autant d'alcool, mettre beaucoup plus de céréales. Donc on met le double que les trois autres recettes. Et du coup, elle va avoir un goût assez fort en céréales, enfin prononcé en céréales, avec une petite touche sucrée épicée assez agréable. On sent pas trop qu'elle a 8,5, elle se boit assez facilement. C'est plutôt après qu'on se dit « Ah ben, je suis contente d'être bien installée dans mon canapé
». Alors pourquoi on dit bière blonde triple ?
Alors, c'est une bière blonde triple. Normalement, triple, c'est parce qu'il y a plus d'alcool dedans. Parce que normalement, les bières classiques étaient à 2,5, donc ça multiplie. Donc, il y avait triplement de l'alcool. Après, c'est aussi parce que ça fait triple refermentation. Mais à vrai dire, nous, on est tout le temps en triple refermentation, en fait.
D'accord.
Et vous faites appel à des testeurs pour vérifier le goût, la qualité, tout ça ?
C'est nous les testeurs qui goûtons à chaque fois la bière avant aussi. On peut le faire goûter à la famille aussi ou aux amis pour qu'ils nous disent, mais sinon on ne fait pas d'autres tests pour l'instant en tout cas.
Et comment on fait pour rentrer dans votre famille du coup?
Non. Oui, il faudrait que je regarde qui c'est qui est disponible.
Et comment ça fonctionne justement pour élaborer une recette comme pour cette bière-là, vous choisissez, enfin vous dosez plus ou moins les céréales, vous essayez avec la cuve pleine, etc. Comment vous imaginez de faire cette recette?
Mais en fait, l'avantage avec la bière, c'est aussi ça qui est passionnant, c'est qu'on peut tirer des goûts différents, des subtilités en fait selon les ingrédients qu'on choisit. Donc on a plusieurs variétés de malt. Les malts peuvent être torréfiés, comme la Guinness, pour un goût un peu de café. Ils peuvent être caramélisés, comme le goût caramélisé qu'on retrouve dans notre bière ambrée. Ou même maintenant, ils peuvent être fumés, donc comme une bière au goût un petit peu saucisse fumée. C'est assez rigolo. Et après, les houblons, il y a différentes variétés qui vont donner d'autres goûts, comme ananas, comme on peut retrouver dans notre bière blanche, ou des teneurs en fruits rouges. Il y a un houblon français qui s'appelle Barbe Rouge qui va apporter des teneurs en fruits rouges, par exemple. Donc déjà, il y a toute une première phase de recherche dans les ingrédients. Donc on choisit les ingrédients pour les goûts qu'on veut retrouver dans notre bière. Et on peut aussi choisir dans la levure, par exemple, c'est ce qui donne dans notre bière blonde le petit goût miellé. On n'a pas rajouté de miel. Une fois qu'on a choisi nos ingrédients, on ne va pas déjà tester en 1000 litres, parce que c'est quand même un petit peu dommage si ça rate de jeter 1000 litres de bière. Donc on fait plutôt des tests dans nos seaux de fermentation en 20 litres. Et après, si on est satisfait, on va essayer de le reproduire à grande échelle. Après, pour les épices, c'est un peu délicat de passer de 20 litres à 1000 litres. Donc, on essaie d'ajuster au mieux les recettes.
Parce qu'en fait, on ne peut pas goûter le temps que la fermentation n'est pas faite. Enfin, est-ce que le premier mélange, on ne retrouve pas les goûts et tout ça? Enfin, comment vous faites vous pouvez ajuster ou pas du tout?
C'est compliqué d'ajuster une fois qu'on a fait la première journée de brassage. On goûte le mou, mais il est sucré juste à la première étape. Après, on peut le goûter aussi avant de le mettre en cuve de fermentation. Mais au final, si ça se passe mal dans la cuve de fermentation, s'il y a une contamination, on peut l'ajouter directement. Donc en fait, la première fois où on va goûter la bière avec de l'alcool, ça va être après la première semaine de fermentation, pour quand on mesure la densité d'alcool. Et sinon, oui, on ne peut pas goûter avant.
Oui, et à partir de ce moment-là, vous pouvez encore faire quelque chose ou pas?
C'est difficile de réajuster, ouais. Du coup. Oui.
Donc, il y a quand même une prise de risque au départ sur qu'est-ce que va être le produit.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, le visuel de cette bière d'hiver, c'est trois naines. Pourquoi trois naines ?
Bon, c'était la petite image du coup de la bière triple. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre trois naines et elles sont les unes au-dessus des autres pour faire trois naines en fait. Voilà. Et on a toujours fait appel à notre jeune graphiste Albert Jax, du coup, qui vient de Toulouse.
Très bien.
Vous avez parlé de bière sans alcool. Est-ce que vous comptez aussi faire des bières fruitées ?
Oui, c'est pas dans notre programmation pour 2019, mais on en fera, oui, à terme, des bières fruitées, oui.
Est-ce que vous envisagez aussi dans l'avenir de développer votre équipe et de continuer à vous développer, enfin voilà, à développer aussi les produits, la gamme, etc. Ou vous souhaitez rester sur cette base de trois et puis rester plutôt sur un projet à vous deux ? Comment vous voyez un peu l'avenir ? Comment vous vous projetez ? C'est peut-être un peu tôt parce que ça fait que 4 mois que vous êtes dans la production effective de bière. Mais...
Oui, bah, ça fait que 4 mois. Après, pour l'instant, ça se passe très bien. On est très contents des premiers retours qu'on a eus. Donc, pour l'instant, on va déjà commencer à rentabiliser l'entreprise à deux, du coup. Et après, bah, on verra pour développer nos perspectives, en fait, si on a besoin d'avoir d'autres personnes avec nous. On commencera déjà peut-être à prendre des apprentis ou des stagiaires les étés sur les grosses périodes. Et après, s'il y a besoin de se développer, oui, on le fera. On avait aussi la perspective, du coup, de créer peut-être un labo pour faire des analyses sur la bière, les houblons, le malt. Donc là, c'est sûr qu'on ne pourrait pas le faire à deux, de toute façon.
D'accord. Alors, sur les produits, on a parlé donc de cette bière d'hiver, la haute comme trois naines. Et puis, vous avez proposé aussi des caissettes de Noël.
Oui, c'est ça. Alors, cette année, quand c'est avec 2 mois et demi, on n'a pas encore une gamme de coffrets complète, mais on peut vous proposer des petits coffrets de 3 fois 3 petites bouteilles de 33 avec au choix, du coup, dedans. Et c'est des petites caisses qu'on vous fabrique dans notre atelier, du coup, derrière.
Ok. Et donc, au niveau tarif, les 3 bouteilles de 33 pour 13 euros, c'est ça ?
Avec la petite caissette,
avec
oui,
la petite
c'est
caissette.
Ça.
Et la bière d'hiver, 2,90 pour 33 centilitres et 4,90 pour 75.
Voilà, c'est ça. Elles ont 30 centimes de plus. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut le double de céréales. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis un petit peu plus cher.
Bon, ça reste très abordable pour une bière bio et locale. C'est très bien. Vous serez aussi sur des opérations de marché de Noël. Alors, vous étiez à Saint-Germain-du-Theil la semaine dernière. Et donc, samedi 15... vous serez à la Biocoop.
Oui, c'est ça. Donc, on a commencé par le marché de Noël à Saint-Germain-du-Theil. On les remercie bien de nous avoir reçus. Et du coup, le prochain marché de Noël, ça va être la Biocoop à Mende, qui organise un marché de Noël avec tous les producteurs locaux. Et donc, ça sera des produits essentiellement bio, du coup.
Voilà, et vous entendez la pub, d'ailleurs, actuellement, sur l'antenne de 48FM. Il n'y a pas souvent de la pub sur 48FM, mais en ce moment, il y en a un petit peu pour la Biocoop.
Quand c'est la bière, on fait une exception.
Voilà, c'est un peu plus global, hein, parce qu'on retrouvera tous les... Enfin, une trentaine, je crois, de producteurs qui sont référencés à la Biocoop. Donc ça devrait être aussi un moment festif, je crois, avec la présence de la compagnie L'Hivernu, qu'on avait reçu la saison dernière. Donc voilà, il y aura plein de choses à découvrir samedi 15. Et puis samedi 22, donc là, il y a une double actualité. Il y a le marché de Noël de Saint-Chély, ça, c'est le local et c'est indispensable d'y
oui,
être.
Oui, c'est ça, ouais, on ne pouvait pas se priver du marché de Noël de Saint-Chély. Et puis du coup, la boutique sera fermée sur notre atelier de production. On ne sera que sur le marché de Noël à Saint-Chély, puisque un de nous sera aussi à Mende sur le stand de marché de Noël.
Alors voilà, à Mende, une opération un peu particulière qui est coordonnée par la Chambre des métiers de l'artisanat de la Lozère. Les 8 brasseurs de Lozère se réunissent pour un marché de Noël ensemble, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs brasseurs de Lozère qui vont se réunir pour proposer un stand commun. Donc chaque brasseur va proposer deux bières différentes. Et vous pourrez repartir avec des petits coffrets de 3 ou plus bouteilles panachées des différents brasseurs, en fait.
D'accord. Et donc, c'est une filière aussi qui se structure un petit peu en Lozère. Vous connaissiez avant, d'ailleurs, d'avoir votre projet. Vous aviez vu les autres brasseurs lozériens ou pas du tout ?
On en avait rencontré quelques-uns, oui, tout à fait. Après, on n'a pas eu le temps d'aller tous les rencontrer non plus. On les a principalement rencontrés sur cette opération par la Chambre des métiers. Et on ne savait pas au départ que ça se faisait comme ça, que la filière se coordonnait. Et du coup, c'est très intéressant, du coup, on se regroupe tous pour faire une action commune. Ça permet de découvrir les différentes brasseries, et comme il y a des subtilités dans chaque brasserie, qu'on n'utilise pas les mêmes matières premières, pas les mêmes techniques forcément, on retrouve des différences assez sympas.
Oui. Il me semble qu'il y a un logo aussi en cours de création, c'est ça, ou qui a déjà été créé ?
Oui, c'est ça, on a créé un logo ensemble pour mettre en fait sur les petites, pour faire des autocollants sur les petits cartons qu'on va vendre en fait. Avec un logo commun, en fait.
Et enfin, il y a de l'intérêt pour vous à échanger entre différents brasseurs sur les façons de produire, sur c'est des choses qui vous semblent intéressantes aussi pour l'avenir.
Ah oui, tout à fait. Déjà dès le départ, on partageait sur un groupe Facebook un groupe de brasseurs de toute la France, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours d'expérience sur les fournisseurs, sur des choses à pas faire, par exemple, ou c'est des techniques qu'on maîtrise peut-être moins bien que d'autres. Donc, non, c'est très intéressant, du coup, de se regrouper, c'est sûr.
Bon, mais voilà, une belle opération qu'on retrouvera sur le marché de Noël de Mende, donc le 22 et 23.
Voilà, ça sera l'espace Georges Fraîche, du coup, qu'on sera situé. Alors,
en plus, vous serez à l'abri du froid.
Voilà, tout à fait.
Bon, tout de suite, la chronique de Léa sur les gilets jaunes, juste après ça. Léa, c'est à toi.
Et oui, et moi je vais pas taper sur mes petits camarades comme la personne que j'ai en face de moi, que je ne citerai pas, je ne vous parle pas monsieur. Je vais parler moi d'un sujet inédit aujourd'hui, les gilets jaunes. Voilà, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors tout ou presque a déjà été fait sur ce mouvement, les fake news, les journalistes pro-gouvernement, les casseurs, les CRS, les lycéens, les retraités, bref, avec les gilets jaunes, on en voit de toutes les couleurs. Est-ce que j'ai honte de ce jeu de mots qui a déjà été fait mille fois ? Oui. Mais il faut bien un peu d'humour dans ce mouvement qui inquiète à la fois les Français et les dirigeants politiques. C'est d'ailleurs cette deuxième catégorie qui, moi, me fait bien marrer depuis plusieurs semaines. Parce que quand certains enchaînent les vidéos d'arrestation en criant à la fake news dans les commentaires, bah, moi, je regarde du côté de nos amis les politiques. C'est vrai, quoi, ça fait quand même longtemps qu'ils auraient dû récupérer le mouvement, je comprends pas. Ça sent le populisme à tous les coins de rue, il y en a pas un pour engranger les voix. Vous allez pas me dire que Macron démission, ça peut pas arranger leurs petites affaires, quand même. Le pire, c'est que les pauvres, ils essayent, hein. Tenez, un exemple comme ça, tout bête. Nicolas Dupont-Aignan. Grand génie de la politique qui arrive même pas à tenir une alliance avec le RN alors que les gars, ils acceptent même les négationnistes. Ce même mec qui avait quitté le plateau de TF1, souvenez-vous, en pleine interview lors des dernières élections présidentielles. Eh bien, au vu de son CV, on se dit, lui, il va faire un beau coup, ça va être grandiose. Eh bien, le gars, invité à Matignon par Édouard Philippe, il nous fait le même qu'il y a 2 ans. Il se casse. Il quitte le plateau présidentiel. La raison, je vous la donne en mille. Il voulait que l'entrevue soit filmée et diffusée en direct. Une revendication qu'un gilet jaune, lui aussi invité à Matignon, avait exposée même pas 24 heures plus tôt. Désolé, mais là, niveau récup, on est sur du 100% cousu main, Nico. Et puis, même quand on propose TF1 avec toutes les caméras et direct du monde, tu te casses, donc faut pas leur en vouloir d'être un peu paumé à l'Elysée aussi. Si ça se trouve, ils pensaient même te faire plaisir. Bon, je suis un peu dure avec Nico, mais y'a pas que lui qui s'est planté. Laurent Wauquiez, ou Wauquiez, selon les régions, a annoncé qu'il baissait les taxes sur le carburant dans son département. Une idée qui lui est venue comme ça, d'un coup, hein, l'inspiration divine, sans doute. Alors, maintenant que l'augmentation a été annulée pour l'année, au moins il est tranquille, hein. Ouf, et une promesse politique de tenue, une. Tant mieux pour lui, parce qu'il n'était pas serein, le président des Républicains, ces derniers jours. Comme beaucoup de ses amis, il a longtemps hésité à soutenir ou non le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, il a décidé de soutenir une autre cause, la lutte contre Alzheimer, maladie dont il est lui-même vraisemblablement victime ces derniers temps, puisqu'il va jusqu'à oublier quels habits il enfile. Quel habit, pardon, pour cette faute. Pour un mec qui se trimballe tous les jours en parka rouge, oublier qu'on l'a recouvert d'un gilet jaune fluo quelques jours plus tôt, va falloir aller consulter, hein, ça devient sérieux. Bref, il a loupé le coche, dommage pour Laurent Wauquiez, figure du populisme de droite, qui pourra toujours se rallier au foulard rouge. Au moins là, pas besoin de changer de vêtements. On va passer au troisième candidat, celui que tout le monde attendait et qui n'est jamais apparu. Pourtant, il a le profil idéal, une communication parfaite sur les réseaux sociaux, une voix qui porte, une voix du peuple, et une ex-responsable qui tweet de joie dès qu'un journaliste se fait frapper. J'ai nommé évidemment Monsieur Mélenchon. Alors, lui, sans grande surprise, il soutient le mouvement. Seulement, et c'est là où c'est plus étonnant, bah, tout le monde s'en fout, en fait. Jean-Luc fait des vidéos YouTube, il va sur les plateaux, il acclame toutes les actions anti-lobby et anti-Macron et dénonce toutes les fake news gouvernementales. Bref, il est dans son élément et ça se voit. Seulement, pour allumer la flamme, il faut être deux. Et là, le leader de la France insoumise est dans une relation ultra platonique, en admiration devant un mouvement dont il aurait sûrement voulu être à l'origine. Sa révolution, elle est là, mais grande frustration pour l'homme de gauche, on ne lui laissera jamais l'occasion d'en être le leader. Et c'est finalement peut-être ça le plus gros problème de nos amis politiques, ils cherchent désespérément à s'emparer d'un mouvement qui ne veut pas d'eux. Enfin si, il y a bien un homme que les Gilets jaunes voudraient entendre, malheureusement c'est celui qui leur parle le moins. Donc un triangle amoureux tellement intense qu'on pourrait facilement en faire un vaudeville avec dans le rôle de scapin une Marine Le Pen qui reste d'une discrétion absolue tant les événements abondent dans son sens, et qui espère sûrement régner sur l'acte final.
Merci Léa pour cette chronique engagée politique aujourd'hui. Je vous invite aussi à relire le petit billet de notre amie Caroline Gaillard dans le journal de dimanche. Voilà, ça se fera un petit écho aussi à ce que tu disais. On poursuit tout de suite avec le portrait chinois. Portrait chinois donc de nos invités, je vous rappelle, Gwendoline Boutet, Florian Gauthier. Un animal favori, qu'est-ce que vous diriez ?
Moi, le chat.
Chat aussi.
Voilà. Un loisir ?
Brasser de la bière.
Ah, c'est un loisir ou...
Un loisir et un travail, on fait les deux en même temps.
Les jeux vidéo.
Un jeu en particulier ?
Non, pas spécialement tout le type de jeux vidéo.
Un endroit préféré en Lozère ? Qu'est-ce qui vous a fait revenir en Lozère ? Quel endroit ?
Le département général, tellement il y a de mosaïques, de paysages, de diversité. Voilà.
Les gorges du Tarn ?
Ouais.
Une drogue favorite ? Peut-être la bière ?
Ou le chocolat ?
Ah,
les bonbons.
ça va ensemble, chocolat, bière, bonbons, bière ?
Ça pourrait, oui.
Bon. Une qualité, un défaut ?
La patience, en défaut.
Un défaut,
Tu as brisé un couple, bien joué.
Non, je l'avais déjà.
Elle boude.
Voilà, oui, c'est ça, merci.
Un plat préféré ?
La tarte flambée, oui.
Les hamburgers.
Accompagné de bière, évidemment.
Ah, toujours, oui.
Un héros de fiction ?
Batman ?
Non, j'en ai ouais. Pas particulièrement.
Et pour terminer, un rêve ?
Bah, c'était d'ouvrir notre brasserie. Donc au final, pour l'instant, il est réalisé pour ma part.
Oui, c'est un peu pareil.
Bon, voilà, un rêve qui se réalise, c'est quand même pas mal pour ce portrait chinois. On fait la deuxième coupure musicale. Et donc, je ne sais pas, Gwendoline ou Florian, quel est votre deuxième choix ?
Alors, deuxième choix, c'était Conquest de White Stripe, parce qu'on aime bien ce groupe et qu'on l'entendait dans la voiture en venant jusqu'à la radio.
Eh bien, c'est parti, on écoute. Allez, on repart pour la troisième partie de notre émission et c'est le moment de la chronique hashtag Bastien avec un hashtag Stop Violence.
Voilà, c'est ça, le hashtag Stop Violence, puisque deux jours avant l'acte 4, un jeudi dernier des Gilets jaunes, de nombreux appels vidéo au calme avaient été publiés par des députés de La République En Marche sur Twitter sous le hashtag Stop Violence, mais cette campagne d'apaisement a été loin d'avoir que des réactions positives. Alors j'en ai recensé quelques-uns sur Twitter, donc Isaac Sibyl, alors qui est-elle? C'est une députée du Rhône de la 12e circonscription. Donc elle l'a dit sur Twitter, on ne gagne rien dans la violence, je condamne fermement les faits de violence perpétrés durant les manifestations. Place au dialogue et à l'apaisement, hashtag stop violence. Également Sandrine Morge, députée de la 9e circonscription, qui l'a cité, hein, nous entendons votre colère, le dialogue est ouvert grâce à vous, saisissons-le, nous sommes l'interface entre vous et le gouvernement, nous sommes là pour faire remonter vos revendications, hashtag stop violence. Alors il faut préciser que Emmanuel Macron a toujours pas exprimé, alors c'est vrai que nous enregistrons aujourd'hui lundi, et que ce soir à 20h, le président de la République va s'exprimer après 3 semaines de silence. Toutefois, les internautes n'ont pas tout bien accueilli cette campagne en ligne qui appelait à calmer les esprits. Beaucoup ont dénoncé ce hashtag et cela n'a fait qu'aggraver la flamme sur la twittosphère, puisque le hashtag violence a suscité 10 800 tweets. Et le dernier hashtag aussi que je voulais parler avec vous, puisque cela vient d'être publié, la mairie de Cannes qui a reçu un hashtag d'or qui récompense l'agilité sur les réseaux sociaux lors du 30e forum de la communication publique et territoriale qui s'est déroulé à Lyon du 4 au 6 décembre. Et deux campagnes les ont séduits de la ville de Cannes. Un, la lutte contre l'incivisme, et deux, programme Cannes, capitale du sport en plein air. Voilà.
Ben voilà, c'est bien de noter des collectivités qui s'engagent sur les réseaux sociaux.
Le hashtag d'or, je ne connaissais pas du tout.
Eh oui, c'est
la 30e, voilà, c'est la 30e forum.
Eh oui.
Eh oui, quand même.
Mais voilà, c'est donc les communicants publics qui valorisent leurs actions. Merci Bastien pour ce point sur les hashtags du moment. On en vient à la revue de presse juste après ça. Allez, revue de presse pour terminer cette émission de Los Actuali. Et on commence avec Eric, une révélation scientifique qui devrait changer notre vision de la vie.
Oui, mais avant la révélation, j'ai juste une question pour nos invités. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une revue de presse là, par rapport au réchauffement climatique et qui risquait de faire baisser la production de la bière. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment véridique ou pas? À cause du réchauffement, on aurait moins de houblon, moins de céréales et... ça pourrait impacter.
Alors, c'est vrai qu'on en a entendu parler, soi-disant, le prix de la bière devrait aussi augmenter parce qu'on aurait une pénurie, en fait, de céréales. Alors, on ne sait pas encore si c'est une intox ou si c'est réellement vrai. L'orge, en fait, reste quand même une plante qui... Enfin, voilà, on a une production 2 fois par an. Alors, voilà, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. J'ai peur que ça soit une intox, mais j'ai peur aussi de me tromper. Donc, on verra bien dans le futur. Nous, on est toujours bloqués sur... sur le fait qu'on est en bio, donc on sera plus impacté si voilà on a par la production, mais voilà.
Si le prix de la bière augmente, moi je mets mon gilet jaune.
Voilà, le lien est fait. Donc une révélation scientifique. Voilà.
Donc, le débat fait rage depuis des siècles sur ce problème existentiel. Tout a commencé en Grèce antique avec Aristote qui disait à peu près ceci. Hein. J'ai pas la traduction exacte. Il ne pouvait y avoir un premier œuf pour faire naître un oiseau, où il y aurait eu un premier oiseau pour faire un œuf, puisque les oiseaux viennent des œufs. Bon, alors cette réflexion, pour le moins compliquée, s'est développée au cours du temps et a changé avec les époques, de Thomas d'Aquin à Denis Diderot, en passant par Charles Darwin. Plus d'un siècle après, de l'origine des espèces de Darwin, on va peut-être enfin arrêter de chercher la réponse. Alors les frères Bogdanov ont évidemment déposé un avis sur la petite question. Selon les deux théoriciens, la poule et l'œuf seraient arrivés conjointement pendant le Big Bang, comme à peu près tous les éléments qui composent notre belle et heureuse galaxie, au même titre que vous, moi, les salamandres chinoises, les Ewoks ou les Pokémon 7e génération. Alors, cette théorie, aussi séduisante soit-elle, est complètement fumeuse car les Pokémon n'ont pas pu arriver avant 1989. Alors, j'entends déjà certains me dire « Si l'œuf est arrivé avant la poule, c'est que ce n'était pas une poule qui a pondu cet œuf, mais cela ne fera pas avancer le débat. » Alors déjà, vous qui êtes scientifique, est-ce que vous avez une idée sur cette question ?
Si vous voulez, toutes les mutations se font en fait au moment de l'embryon, et donc les mutations se sont faites d'abord donc, dans le nouvel embryon qui est devenu une poule, et c'est cette poule-là qui a fait donc un œuf. Donc la poule est arrivée avant l'œuf.
J'ai pas la même théorie. Déjà voilà, enfin, moi je tire ça d'une étude scientifique hein, qui a prouvé que 99 fois sur 100, j'ai bien dit 99 fois sur 100, autant dire très peu de marge d'erreur. Lorsque l'on envoie un œuf et une poule en même temps dans des colis séparés bien sûr, c'est toujours l'œuf cassé qui arrive en premier. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël pour que vous n'ayez plus de problèmes existentiels.
Voilà, donc les deux réponses étaient bonnes. Merci Eric. Léa.
Oui.
On poursuit avec les gilets jaunes.
C'est marrant parce que vous allez voir, les grands esprits se rencontrent avec Eric aujourd'hui. Donc, gilets jaunes, acte 378. L'égalité homme-femme est-elle enfin atteinte en politique ? En stupidité, sûrement. Oui, je trash talk aujourd'hui et j'ai décidé de mettre un anglicisme par émission maintenant. Faudra s'y faire. Je vous parlais de récupération tout à l'heure, on va rester dans le thème, hein, pour cette revue de presse, avec deux grandes dames de la politique française. Alors moi aussi, je vais faire des petites questions-réponses. La première est mariée à son cousin au je ne sais combien-tième degré, mais peu importe, puisque c'est Jésus qu'elle aime par-dessus tout, c'est bien sûr...
Roselyne Bachelot.
Christine Boutin,
Christine
yes
Boutin.
Voilà, on est au taquet. L'œuf, la poule, ça va, mais alors les politiques, il n'y a plus personne. Voilà, donc Christine Boutin qui nous gratifie d'un merveilleux tweet et d'un syllogisme qui aurait rendu jaloux Aristote lui-même, voilà, Eric. Je cite, les gilets jaunes expriment leurs difficultés de fin de mois et dénoncent avec raison les inégalités sociales. Il serait juste que les enfants de demain soient égaux et connaissent leur papa. Donc, que tous ceux qui refusent PMA et GPA se joignent aux gilets jaunes. Comprenez, pour simplifier, les gilets jaunes se battent contre les inégalités sociales. Ne pas connaître son père entraîne une inégalité sociale, donc les gilets jaunes sont contre la PMA et la GPA. Voilà, message pour tous les lycéens. Si vous n'êtes pas à genoux et les mains sur la tête au bac de philo, pensez à la placer, celle-là c'est 20 sur 20 assuré. Alors on passe à la deuxième femme politique. Attention Guillaume, cette fois il faut que tu l'aies. Après un mariage et une présidentielle foirée, elle a tout de même réussi à être ministre. Elle a décidé de se retirer de la vie politique en même temps que son ex-mari, tout en décidant que, finalement, pas vraiment, toujours en même temps que son ex-mari, d'ailleurs. Tu l'as ?
Ségolène Royal ?
Bien joué ! Ségolène Royal qui revient sur l'interpellation des lycéens de Mantes-la-Jolie, que des images nous montrent genoux à terre et mains sur la tête dans une cour après plusieurs interpellations. Des images qui ont choqué beaucoup de Français, mais vraisemblablement pas Ségolène Royal, hein, qui déclare dans le plus grand des calmes que ça leur fera un bon souvenir. Pas un bon souvenir, pardon, ça c'est moi qui l'ai rajouté, la petite touche de cynisme. On imagine sans peine les belles vacances que devaient être celles des enfants Hollande revenant chaque été, les bras chargés de souvenirs et les genoux couverts de sang. C'est pas mal pour leur redonner le sens de la réalité, dit-elle également. Alors, si mes souvenirs sont bons, chers lycéens, le thème de la réalité est également abordé en philo, quelques semaines seulement après le syllogisme.
Merci Léa pour cette chronique, cette revue de presse aussi. Et on passe à Bastien. Et maintenant, on revient dans la féerie de Noël.
Voilà, dans la féerie de Noël.
Il en fait
un petit peu. Je vais aider les auditeurs qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut choisir plutôt un sapin de Noël naturel ou artificiel ? Et lequel est le plus éco-responsable ? Donc chaque année, près de 6 millions de sapins sont vendus en France à l'occasion des fêtes de Noël, dont 1 million en plastique. Donc cela signifie qu'environ un ménage sur 5 dispose d'un sapin chez soi, donc c'est pas non plus énorme, et qui coûte en moyenne 27 euros. La tentation de sauver un arbre du coup de hache fatidique pourrait nous inciter à basculer du côté des sapins artificiels, mais ce serait là une erreur, ces derniers ne sont pas plus écologiques, bien au contraire. Alors, il existe deux types de sapins. Tout d'abord, il y a le sapin au pétrole. C'est des sapins en plastique qui se fait à partir de pétrole, qui constituent les deux tiers de leurs empreintes carbone. Et un sapin artificiel de 2 mètres a une empreinte carbone équivalente à 40 kg d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui revient à plus de 2 fois celle d'un sapin naturel finissant à la décharge et plus de 10 fois celle d'un sapin naturel que l'on brûle au lendemain de Noël. Alors, pour amortir ce bilan énergétique, il faudrait conserver un même sapin artificiel une vingtaine d'années. Même après cela, il demeure quasiment impossible de le recycler, le PVC étant rétif à cet usage.
Il y a également le sapin recyclable. Alors, par revers, un sapin naturel est susceptible d'être recyclé, soit en étant débité pour un autre usage, soit en étant replanté en pot ou en terre. Mais cela étant, il est jeté dans une décharge. Un sapin naturel peut générer une empreinte carbone de 16 kg de CO2. Il produira du méthane lors de sa décomposition. Alors, vous allez me dire, mais alors, quelle meilleure option pour notre sapin de Noël ? Eh bien, c'est le sapin naturel qui sera produit localement, ce qui pourra réduire au maximum les émissions de carbone produites lors du transport et de le recycler par la suite. Et sachez que depuis fin 2016, les pouvoirs publics ont mis en place le label rouge, qui se nomme sapin de Noël coupé, ce qui est censé de garantir des sapins de qualité supérieure. D'autres services tels que Trismas prennent en charge le processus d'acheminement et de recyclage des sapins. Les sapins naturels, dont une partie est plantée en prévision des fêtes de fin d'année, peuvent même avoir un impact finalement positif sur l'environnement en produisant de l'oxygène et en stabilisant les sols.
Et voilà.
Voilà, on sait quoi acheter.
C'était la rubrique conso pour c'est les ça. Sapins de Noël. Alors moi, je me projette déjà en 2019 et je vous propose de choisir votre couleur pour l'année prochaine. Donc l'Institut d'études des tendances et la marque Pantone qui est la référence pour toutes les couleurs, définissent la couleur de 2019. Et donc la couleur de 2019, c'est le Living Coral, donc le 16-15-46, hein, donc de la gamme de Pantone. Voilà, donc c'est une couleur corail, on va dire saumon, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment on pourrait le dire, hein, voilà. Voilà, et donc voilà, c'est une couleur qui incarne la légèreté et favorise les activités joyeuses. Voilà.
C'est un grand nom, le corail, c'est le nom. C'était déjà là en 2015, personne n'a aimé, il ne faut pas recommencer, c'est tout.
Ah voilà, en 2018, c'était l'ultraviolet qui était prévu. Mais bon, voilà, donc une couleur vivifiante avec des nuances dorées qui insufflent vie et énergie tout en l'adoucissant légèrement. Voilà, donc voilà, je pense que voilà, si vous cherchez une couleur pour l'année 2019,
c'est
voilà.
Pas c'est pas le corail, vraiment pas.
Voilà. Donc voilà, bon, ça incarne une expression pleine de légèreté, favorise les activités joyeuses dans notre quotidien. C'est enclin à l'omniprésence des technologies numériques et des réseaux sociaux. Voilà, bon, vous voyez que l'entreprise s'amuse à communiquer sur tout ça. Voilà.
Gilets seront corail.
Voilà. Donc voilà, l'année dernière, donc c'était effectivement, on disait l'ultraviolet à tendance bleue, censé communiquer l'originalité, l'ingéniosité, la pensée visionnaire. En 2017, c'était le vert greenery qui symbolisait alors le retour à la nature. Donc bon, voilà. Donc prévoyez vos couleurs pour l'année prochaine.
Ils piochent des mots, ils les mettent bout à bout, non, c'est pas ça.
Voilà, donc c'était notre revue de presse. On va rappeler l'actualité de nos invités. Donc une bière d'hiver qu'on peut retrouver dans votre boutique, dans la zone artisanale de Saint-Chély, qu'on peut retrouver aussi sur le marché de Noël, à la Biocoop samedi 15, et ensuite dans l'opération groupée autour de la Chambre des métiers sur le marché de Noël de Mende, et bien sûr au marché de Noël de Saint-Chély, donc pour le week-end du 22 et 23 décembre. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et puis ben voilà, on aura plaisir à découvrir vos produits. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci de votre accueil.
Et donc rendez-vous après Noël, hein, on va faire une petite pause pour les vacances. Donc rendez-vous en janvier en pleine forme pour une nouvelle saison de Los Actuali. À bientôt.
Et à l'année prochaine.
Ah non.
L'Oz Actualie.
L'Oz Actualie.
Revue de presse.
Hashtag.
Portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans L'Oz Actualie.